RFI Matin, la politique française avec votre invité Frédéric Rivière. Vous recevez ce matin le ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications, Jean-Noël Barrot.
Bonjour Jean-Noël Barrot.
Bonjour.
Et c'est une journée très importante pour le gouvernement qui commence ce matin. C'est en effet cet après-midi que seront examinées les motions de censure après le recours au 49-3 jeudi pour faire adopter la réforme des retraites. C'est celle du groupe Liot, le groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire, qui est susceptible d'obtenir le plus grand nombre de voix. Dans quel état d'esprit est le gouvernement ? Est-ce que vous êtes serein ou inquiet ?
La réforme dont il est question, le gouvernement considère qu'elle est indispensable, parce qu'on ne peut pas continuer comme on l'a fait pendant de longues années à s'endetter sur le compte de nos enfants. Le gouvernement, avec la Première Ministre, Olivier Dussopt, ont présenté un texte qui a été largement amendé lors de la commission mixte paritaire qui a réuni 7 députés, 7 sénateurs représentant les nuances de l'Assemblée ont revu le texte ligne à ligne.
Oui, enfin, avec une majorité tout de même au sein de cette commission mixte paritaire, une majorité de gens de droite et de la majorité présidentielle.
C'est les nuances
du
Parlement.
Oui, bien entendu. Oui.
Et le texte a été revu ligne par ligne. Au dernier moment, il a manqué des voix, et notamment des voix venant des LR, et le gouvernement a donc engager sa responsabilité sur ce texte. C'était donc un moment très important puisque c'est l'aboutissement du processus démocratique autour de ce texte sur la réforme des retraites.
Mais est-ce que en dégainant le 49-3 d'une certaine manière dans le contexte qui était déjà tendu, vous n'avez pas l'impression que c'était un peu comme gratter une allumette dans une poudrière ?
Le 49-3, c'est un outil démocratique, puisque le gouvernement engage...
C'est un outil constitutionnel, mais est-ce que c'est vraiment un outil démocratique ?
Engager sa responsabilité, c'est un processus, c'est un réflexe démocratique. Si ce soir la motion de censure est adoptée, le gouvernement tombe. Il n'y a pas, si l'on peut dire, de pouvoir plus grand au Parlement que celui de renverser le gouvernement. Il y a donc un dernier mot qui est laissé à l'Assemblée nationale sur ce texte dont nous considérons qu'il est fondamental.
Et alors, je reprends ma première question. Vous êtes serein ou inquiet face à l'issue de ces votes ?
Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une inquiétude sur l'issue de ce processus. Ce que nous souhaitons évidemment, c'est que la réforme soit adoptée, mais c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Et comme nous l'avons vu ces derniers jours, il y a une forme de fébrilité. Ce que nous souhaitons, c'est que cette réforme soit adoptée démocratiquement.
Pour beaucoup de Français qui, il faut le rappeler, sont majoritairement hostiles à la réforme des retraites, le 49-3, même s'il est donc constitutionnel, je le disais, pour beaucoup d'entre eux, tout de même, c'est un déni de démocratie. Comment vous pourriez les convaincre du contraire ?
Le 49-3, c'est un outil qui a été utilisé à de nombreuses reprises par le passé. C'est une nouvelle fois une manière pour le gouvernement de se mettre dans les mains de l'Assemblée nationale, dans les mains du Parlement, dont je rappelle qu'il est l'émanation du peuple souverain. Il n'y a pas de passage en force, c'est bien l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot.
Vous vous souvenez de ce qu'avait dit Édouard Philippe lorsqu'il était Premier ministre en décembre 2018, au moment de l'abandon de la taxe sur les carburants ? Est-ce que vous vous souvenez des mots qu'il avait employés ?
Pas précisément.
Alors je vais vous les rappeler. Si l'État, avait-il dit, doit rester fort et ferme, il est d'abord le garant de la paix publique. Fixer le cap et le tenir est une nécessité pour gouverner la France, mais aucune taxe ne mérite de mettre en danger l'unité de la nation. Est-ce que cette analyse ne vaut pas pour la réforme des retraites ?
Mais nous avons une responsabilité immense vis-à-vis des générations qui arrivent.
Est-ce que lui n'en avait pas une à l'époque ?
Nous avons une responsabilité immense, et c'est celle de transmettre à la génération qui vient un système de retraite et en réalité une sécurité sociale qui soit viable et de la même manière que la génération qui nous a précédés nous l'a transmise. Et je crois que c'est un sujet absolument fondamental et qu'il en va de l'intérêt supérieur du pays.
De plus en plus d'élus sont menacés. On a vu la permanence d'Éric Ciotti vandalisée à Nice ce week-end. Est-ce que c'est la manifestation d'une crise de la démocratie ?
Je déplore et je condamne ces violences, celles qui ont eu lieu à la permanence d'Éric Ciotti, comme devant celles de très nombreuses permanences parlementaires en France. Je suis assez écœuré de voir qu'un certain nombre de responsables, y compris de responsables politiques, en appellent au blocage, en appellent à la violence et sapent la confiance de nos concitoyens vis-à-vis de la démocratie parlementaire.
Vous avez entendu des responsables politiques en appeler à la violence ?
Au blocage, en tout cas, oui, bien sûr.
Oui, mais le blocage, c'est pas la violence.
Le blocage peut parfois prendre les formes de la violence. En tout cas, venant de responsables politiques, de responsables parlementaires, je crois que il est de leur responsabilité de conforter la démocratie parlementaire dont nous avons besoin pour faire avancer le pays. Et chaque fois que par le blocage, par l'outrance à l'Assemblée nationale, par l'invective et par l'injure des parlementaires affaiblissent l'Assemblée nationale, je crois qu'ils ont un grand tort et qu'ils font une faute politique.
Si la motion de censure, ce qui est le scénario le plus vraisemblable, il faut bien le dire, est rejetée aujourd'hui, est-ce que vous imaginez pouvoir tourner la page de la réforme des retraites et passer à autre chose ?
Je ne souhaite évidemment pas que la motion de censure passe. Si elle ne passait pas, il faudra évidemment se tourner vers l'avenir, car les défis sont très nombreux, ils sont très grands, et il faut que nous puissions embarquer, évidemment, associer les Français au relèvement de ces grands défis qui sont devant nous. Et je crois que c'est ce à quoi il faudra nous attaquer. Je crois qu'il y a des attentes très fortes dans le pays, s'agissant du pouvoir d'achat, s'agissant de l'école, s'agissant de la santé. Le gouvernement est pleinement mobilisé depuis des mois pour essayer de relever ces grands défis, et je crois que c'est ce que les Français attendent.
La présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, Aurore Berger, estime qu'après les votes sur ces motions, il faudra, je la cite, retisser le lien avec les Français. C'est donc c'est bien la preuve qu'il y a quelque chose de rompu tout de même avec cette réforme des retraites.
Que la démocratie soit fragilisée, ça n'est pas un fait nouveau, et c'est la raison pour laquelle le président de la République a pris un certain nombre d'initiatives. Je pense en particulier au Conseil national pour la refondation, à un certain nombre de conventions citoyennes qui ont été mises en place pour renouveler la manière dont nous concevons les politiques publiques en y associant de manière plus étroite les Françaises et les Français. Et je crois que c'est ce chemin-là qu'il nous faut suivre pour retisser ce lien.
Vous êtes en charge du numérique au gouvernement. Comment le gouvernement va-t-il répondre à la révolution que représente la montée en puissance de l'intelligence artificielle, illustrée en particulier par le désormais fameux logiciel ChatGPT, dont la dernière version est tout à fait stupéfiante d'efficacité et de rapidité?
L'intelligence artificielle est porteuse de très nombreuses promesses, et je pense en particulier au progrès scientifique. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle sauve des vies en permettant de détecter beaucoup plus précocement des cancers et donc de les soigner. C'est grâce à l'intelligence artificielle que nous avons pu découvrir dans les temps le vaccin pour la Covid. Et donc, il faut que dans cette nouvelle révolution, la France soit aux avant-postes. Nous investissons depuis 5 ans, depuis le rapport Villani sur le développement de l'intelligence artificielle en France, et nous allons tenir compte de l'arrivée de ces nouveaux modèles illustrés par ChatGPT pour garder l'avantage.
En 2023, c'est la fin de l'accès aux sites pornographiques pour nos enfants. C'est vous qui l'avez dit en février dernier. Est-ce que vous êtes sûr que votre engagement soit tenu ?
Oui, car la France sera bientôt le premier pays du monde à imposer le contrôle parental sur tous les appareils vendus sur son sol, des smartphones aux consoles de jeux vidéo, en passant par les tablettes. Et en parallèle, nous avons pris une loi, il y a 3 ans, qui impose aux éditeurs de sites pornographiques une vérification sérieuse de l'âge de leurs utilisateurs. Les sites porno ont jusqu'à présent résisté devant la justice à cette obligation, mais la justice devra prochainement se prononcer sur leur blocage ou leur déréférencement lorsqu'ils ne mettent pas en place cette
vérification. Mais aujourd'hui, c'est toujours possible, totalement, librement, d'accéder à de la pornographie.
Bien sûr, et c'est un scandale.
Quand cela sera-t-il impossible ?
Et c'est un scandale, puisque 2 millions de mineurs de moins de 18 ans ont chaque mois sont chaque mois exposés à des images pornographiques. Avec le contrôle parental d'un côté, avec la vérification d'âge de l'autre, nous mettrons fin très prochainement à ce scandale.
Merci Jean-Noël Barrot.
Bonne journée. À vous.